Pour moi, c'est la base. Tous les jours, pain, beurre, confiture. Non, mais le pain, on en mange avec tout. Le fromage, le pâté, les rillettes. Et puis, même sans rien, moi, je mange du pain sans rien. Hein. Même des fois, avec des pizzas, je mange du pain. J'ai toujours ma tartine de pain à côté parce qu'il me faut du pain pour manger, moi. Donc, non, ça se mange avec tout, le pain, de toute façon. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce produit.
Il s'appelle Xavier. Il est boulanger. Originaire de Mayenne, il a décidé d'installer son fournil dans le Douaisis, à Guénin. Une installation réalisée en collaboration avec l'espace de vie sociale et culturelle, la Musette. Les pains de Xavier sont fabriqués avec des farines locales et bio, des pains au levain, qui, à l'heure où les grandes chaînes de boulangeries s'installent en périphérie des villes, au détriment des boulangeries artisanales, séduisent une clientèle en quête de bon, de sain et de sens. Suivez-moi, je vous emmène au fournil à la rencontre de Xavier. Bonjour.
Bonjour. Je viens pas forcément d'une famille où il y a eu de la boulangerie, alors qu'habituellement, il y a souvent des boulangers dans les familles, des nouveaux boulangers, je trouve. C'est souvent comme ça, et puis on me l'a fait remarquer, ça. On m'a souvent demandé, mais t'avais un oncle, une tante, un des grands-parents boulanger. J'ai jamais eu le cas. Mais j'ai eu mon frère qui s'est mis à la boulangerie après moi, donc voilà. Mais ouais, voilà. Bah, du coup, après, j'ai commencé par ma formation par un bac général que j'ai eu, et après, je suis parti chez les Compagnons du Devoir parce que j'avais quand même une âme voyageuse, on va dire, en quelque sorte. Et du coup, les compagnons m'ont permis de voyager autour de la France, quoi, en faisant le compagnonnage.
Pour aller faire du pain partout en France.
Ouais, c'est le but des compagnons, c'est d'apprendre un métier. Et chaque année, on change d'entreprise, on change de lieu et on change de ville. Et puis, on apprend des nouvelles choses avec des nouvelles façons de travailler selon les endroits. Par exemple, j'ai travaillé en Corse ou j'ai travaillé dans le territoire de Belfort. Donc, il y a des produits différents en fonction des régions, quoi.
Les compagnons, en fin de formation, ils doivent parfois produire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. T'as été confronté à cette épreuve ?
Non, j'ai arrêté les compagnons juste avant, pas juste avant, mais je pense l'année avant cette confrontation au chef-d'œuvre, comme tu viens de le dire. Voilà, les compagnons la vie chez les compagnons ne me convenait plus, donc j'ai préféré mettre fin plutôt que de me confronter à une épreuve où je ne me sentais pas d'aller, quoi. Voilà.
Tu as rencontré des boulangers qui t'ont particulièrement marqué ?
Ouais. Bah, il y en a un, je suis encore en contact avec lui et qui m'a aidé sur pas forcément sur l'installation, mais surtout au niveau des recettes ou de l'organisation de travail. Et c'est un chef boulanger avec qui j'ai travaillé quand j'étais sur Paris chez Terroir d'Avenir. Et qui a ouvert sa propre boulangerie maintenant sur Paris. Ça s'appelle L'Éveil. Et ouais, lui, franchement, c'est vraiment un as de la boulangerie, quoi. Enfin, il a tout en tête tout le temps et tous ses gestes sont faits pour que ce soit fait au bon moment. Il a tout en tête, en fait. C'est impressionnant. Il est impressionnant à le voir travailler, en fait.
Tu parlais de la relation avec ton frère. Je ne vais pas être trop indiscret. Comment tu la qualifierais, cette relation ?
Bah, depuis qu'il est devenu boulanger il y a 7 ans, parce que c'était il y a 7 ans où il s'est mis à la boulangerie, ça a fait une connexion qui nous a fait un petit rapprochement, on va dire, parce que bah, du coup, je suis venu l'aider au début pour lui montrer 2-3 trucs que moi je savais, du coup, et qui pouvaient peut-être l'aider. Alors, sachant que c'est pas du tout la même manière de travailler que moi je faisais. Moi, je travaillais dans des boulangeries plutôt traditionnelles, où on faisait de la baguette, tout ça. Lui, c'était plutôt des pains au levain. Donc, je connaissais pas encore trop cette façon de travailler. Mais voilà, les petits trucs que je savais, j'ai essayé de lui apporter. Donc, du coup, ça a fait une relation un peu plus... qui se rapproche par rapport au niveau professionnel, quoi, du coup. Et du coup, il est venu m'aider, du coup, également à mes débuts ici au fournil de Guénin, parce que voilà, j'avais des questions à lui poser sur sa façon de faire, vu que lui, il a eu l'expérience déjà. Et du coup, et ben, je dirais qu'heureusement qu'il est venu, parce que ça m'a apporté quand même pas mal de choses pour me lancer, quoi.
Alors, avant de parler du pain, de ce que tu fais, on va parler de ton arrivée, de ton installation ici à Guénin, avec au milieu de tout ça, la musette, Eric. La connexion, elle se fait comment entre ce lieu de vie sociale, toi, la boulangerie?
Alors, ça a démarré du fait que ma belle-mère a acheté des huîtres à la Musette, donc au bar d'Eric, et elle nous a dit à moi et à ma compagne que c'était un bar qui était sympa, qu'on connaissait pas. Donc on y allait quelques fois, puis on a rencontré Eric, on a discuté, et il m'a dit il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je pense. Que, en fait, il avait des boulangers, un couple de boulangers qui le fournissaient en pain et qu'ils allaient partir l'été 2024. Et que dans son idée, c'était de rencontrer un boulanger et de l'installer éventuellement dans un fournil qu'il pourrait construire dans son corps de ferme derrière la musette qui appartient à sa famille. Et du coup, quand il a dit ça, alors ça fait tilt d'abord à ma compagne. Moi, ça m'a stressé parce qu'au début, j'étais là, ah, j'ai peur de me lancer quand même. Mais au final, en discutant une fois, deux fois, je me suis dit que c'était une occasion qui se représenterait peut-être jamais. Donc, fallait sauter sur l'occasion. Et du coup, bah, on s'est engagé avec Eric. Enfin, on s'est lancé dans ce projet-là ensemble. Et du coup, il m'a bien accompagné quand même. Donc je le remercie pour ça quand même. Et du coup, on a continué ensemble sur ce projet jusqu'au bout. Et là, même encore aujourd'hui, on est ensemble et ils m'aident beaucoup sur ce projet, quoi.
Alors, on parle de la musette, il y a le bar, il y a également l'épicerie, ce vide de lieu social, comme il aime à le définir Eric, avec une éthique derrière. Par exemple, il promeut vraiment les produits issus des productions locales. Là, le pain, ça sera produit juste derrière la musette, mais tes fournisseurs à toi, tu arrives à trouver localement ce que tu veux pour fabriquer ton pain.
Du coup, on va parler de la farine en premier lieu, parce que c'est quand même le produit, l'ingrédient principal de tous les produits que je fais. Je me suis rapproché de Bioserre. Donc, Bioserre, c'est une coopérative agricole où plusieurs agriculteurs se sont mis ensemble. Et en gros, c'est un moulin qui fait exclusivement du bio. Et du coup, ils sont basés, comme on peut le voir sur le sac ici, ils sont basés principalement sur le nord de la France. Et du coup, bah, ça permet d'avoir une farine le plus locale quand même, mais avec une constance qui est quand même plus agréable à travailler, on va dire. Ça permet d'avoir, vu que ça commence à devenir un moulin assez gros, la constance des farines permet d'avoir une qualité de pain qui permet d'être régulière tout au long de l'année.
Parce que c'est important, ça, c'est que la personne qui est habituée au pain de son boulanger retrouve la même saveur, la même texture, le même goût de fournée en fournée.
Bah, c'est le but, quoi. C'est le but. Après, c'est plus compliqué quand on travaille avec des éléments qu'on peut essayer de contrôler, mais qu'on ne contrôle pas à 100%, comme le levain, le four à bois, l'hydrométrie de l'air. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire changer le goût et la texture du pain que chaque jour, il faut faire attention et aux petits détails qui font que le pain reste similaire chaque jour. Ouais.
Le four à bois,
Le four à bois, ouais.
c'était un choix.
Ouais, parce que voilà, déjà niveau économique, c'est beaucoup moins cher d'acheter un four à bois qu'un four électrique. Déjà, voilà, je voulais sortir un peu de la dépendance électrique. Quand j'entendais parler d'énormément de boulangers qui se retrouvent avec des factures électriques à la fin de l'année et qui n'arrivaient pas à sortir la tête de l'eau et qui fermaient, il y a énormément de boulangeries qui ont fermé ces dernières années. Donc je me suis dit que l'électrique, déjà, c'était pas forcément une bonne chose. Et puis le four à bois, ça permet d'apporter un petit goût au pain, je pense. Et puis c'est agréable de travailler avec un four à bois, c'est vivant en soi, donc faut toujours être aux petits soins avec lui. Il n'y a pas juste à appuyer sur des boutons, quoi. Faut le nourrir, faut rajouter du bois et maintenir la chaleur, ouvrir le hourra, tout ça. Il y a plein de petites choses à faire.
Puis il y a un petit côté sorcier parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe dans la cuisson. Il faut anticiper, comprendre le feu en quelque sorte.
Ah bah, c'est sûr qu'un four à bois, ouais, faut l'apprivoiser, hein, parce que c'est pareil, il y a un thermomètre en dehors du four. Mais est-ce qu'on s'y fie à 100%? Est-ce qu'il y a une différence de température de 30 degrés peut-être, voire 50? On ne sait pas. Il faut apprendre son four et une fois qu'on le connaît, je pense que ça va, mais... Voilà, le début, ça peut être piégeux à certains moments. J'ai eu des pièges pendant mes essais, et du coup, bah, voilà, j'essaie de l'apprendre au mieux, et c'est de mieux en mieux maintenant.
Rencontre avec Xavier, le tout nouveau boulanger de Guénin, le Fournil de Guénin.
Tu évoquais les difficultés économiques qu'ont connues certaines boulangeries. On a également... parallèlement, tout un réseau de boulangeries qui se développe nationalement. Le Douaisy n'y échappe pas. Là, même des boulangeries de chaîne viennent d'ouvrir à proximité. Ça te fait peur?
Non, parce que ce n'est pas du tout les mêmes produits que je propose. Et je sais que le genre de produits que je produis actuellement, c'est vraiment des... recherché par par une certaine population dans le coin. On a eu énormément de messages ou de retours des gens qui disaient « on attend du pain comme ça depuis un moment ». Alors ça fait plaisir à entendre, mais du coup bah, y a une attente derrière, donc c'est cool. Mais je sais que ces gens-là ont du mal avec ce genre de grandes chaînes. Et voilà, ils voulaient retrouver, je pense, un côté artisanal, bio et local, avec la connaissance du boulanger, je pense. Savoir où sont produits les pains, les brioches. Je pense que ça rassure d'un certain côté les clients, quoi.
On enregistre ici, ça s'appelle un fournil, c'est ça?
Oui, c'est un fournil, exactement.
Ouais. C'est pas une boulangerie, il n'y a pas un point de vente?
Non, il n'y a pas de point de vente. Bah, c'est une discussion qu'on a eue avec Eric. On a décidé qu'il n'y aurait pas de point de vente à côté du fournil. Alors d'une part parce que le fournil se trouve sur la propriété de la famille d'Eric. Donc ça aurait fait du monde qui serait passé trop souvent. Ça aurait pu être compliqué de gérer pour pas que les gens se dispersent dans la ferme. Et puis d'un autre côté, ça fait moins de location de bâtiments. Pour moi, ça fait un coût moindre. Il y a... S'il y avait eu un magasin, alors peut-être que j'aurais pu le gérer moi-même, ou alors il aurait fallu payer un vendeur ou une vendeuse, ça aurait fait des coûts supplémentaires, une gestion supplémentaire. Et je pense que la manière avec laquelle je procède actuellement, je pense qu'elle est carrément viable et avoir un magasin n'est pas forcément une nécessité, je pense.
Donc le pain, on va plutôt le trouver dans des points de dépôt.
Alors oui, actuellement, le pain est vendu à la Musette le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h30. Et je suis actuellement tous les mercredis matin, depuis cette semaine, donc c'est vraiment tout nouveau, au marché d'Arras également. Donc ça commence vers 8h30, 9h jusqu'à 12h30, 13h.
Premier sentiment, premier retour sur ce premier marché?
Ça fait bizarre de se retrouver derrière la table de vente. Les commerçants avec qui je me suis retrouvé étaient vraiment sympas. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont expliqué un peu comment ils fonctionnent. Et puis, il y a de l'entraide quand même au niveau de l'installation, des petits conseils. Parce que moi, c'est vraiment mon premier marché que je fais tout seul. Donc, c'est vraiment une nouveauté pour moi. Donc, non, c'était une bonne découverte. Et... j'ai eu déjà des retours des clients d'Arras qui avaient l'air déjà d'être contents de trouver un boulanger sur le marché parce qu'il n'y avait pas de boulanger actuellement. Ça fait plaisir d'avoir des petits coins d'œil vers mon étal en se disant... en plus, j'entendais les gens dire « Ah, c'est dommage, on a déjà acheté le pain, on reviendra la semaine prochaine s'il est là tout le temps, c'est cool. » Donc voilà.
Est-ce que tu es plutôt bavard?
Non. J'écoute plus que je ne parle, je pense. Mais bah des fois, on me dit que je suis bavard quand même, mais je le trouve pas, non.
Et quand tu travailles seul, donc, ici?
Ouais, je suis tout seul, ouais.
Musique, pas de musique?
Musique, podcast, radio, ça tourne. Quand j'en ai marre de la musique, je mets un podcast, et quand j'en ai marre d'un podcast, je mets la radio, et puis ça tourne.
Le pain, il est en vente ici à la Musette, on va rappeler. rappeler les jours et les horaires.
Alors, à la Musette, c'est le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h30. Donc, vous pouvez me retrouver à vendre mes pains ces deux soirs par semaine-là.
Donc, c'est-à-dire que là, on peut aller rencontrer le boulanger.
Oui, c'est ça. C'est moi le boulanger et c'est moi qui vais vendre mes propres produits. Ouais.
Il y a un plaisir particulier, justement, à rencontrer le client.
Bah ouais, parce qu'on voit les clients en train de réfléchir devant les pains, à se dire « Ah, t'as vu celui-là, il est comme ça » ou « Ah, j'hésite entre celui-là et celui-là » ou même voir par exemple des enfants, ils viennent d'acheter une petite brioche, ils la mangent tout de suite et tu vois les expressions sur leur visage, ou même les grands, hein, tout le monde. Il y en a même qui vont rester à la Musette pour consommer et puis ils vont consommer aussi par exemple un pain aux olives avec leur bière. Et bah... Des fois, ils reviennent juste après en disant bah, « On a déjà fini notre pain aux olives, il n'était pas censé être mangé ici, mais on va t'en reprendre un parce qu'on en a besoin pour chez nous. » Donc, c'est cool. Ça crée du lien direct avec la clientèle. Et ça, c'est plutôt plaisant quand même. Ouais.
Ouais, c'est une autre forme également que d'aborder le côté commercial de ton activité, quoi.
Ouais, bah oui, c'est ça. C'est pas juste des chiffres et enfin des produits, des chiffres et puis des tableaux en fonction des ventes. C'est vraiment aussi discuter avec les gens qui ont des questions sur les produits et puis apporter des réponses aux questionnements qu'ils peuvent avoir. Et puis, par exemple, j'ai des questions par rapport au gluten, au sans gluten, tout ça. Donc, ça permet de leur apporter des réponses directes et puis. Bon, après, je ne dis pas que je suis la science infuse de la boulangerie, hein, donc il y a des réponses que je ne peux pas avoir. Mais voilà, j'ai quelques notions et je peux apporter quelques réponses à quelques questions. Ouais. Et donc, c'est cool de pouvoir discuter avec les gens, de leurs ressentis par rapport aux produits, de leurs envies éventuelles. Et puis, ouais, c'est toujours plaisant de vendre ses propres produits aux clients, quoi.
Et ça permet d'envisager peut-être la prise de commande pour des gens qui deviennent habitués, ce qui t'offre, toi, peut-être une visibilité.
Ouais, bah c'est prévu qu'il y ait une prise de commande via Internet qui se fasse prochainement. Donc, ce sera via le site Copain. Mais c'est en cours de mon site perso de commande est en cours de préparation. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais... ça ne devrait pas tarder non plus, quoi.
Le pain non vendu, alors j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il devient quoi? Parce que c'est une vraie question, ça aussi, aujourd'hui, où on lutte contre tout le gaspillage possible et imaginable.
Bah, c'est une grosse question. C'est surtout que je n'ai pas encore de solution là, dans le Nord. C'est en réflexion. Je sais qu'il y a des brasseurs qui réutilisent du pain pour en faire de la bière. Je vais essayer de me rapprocher d'eux pour leur redonner, quoi, pour qu'il ait une seconde vie. Mais je t'avoue qu'actuellement, j'ai toujours pas de solution, donc je suis un peu perdu par rapport à ça. Je sais pas trop quoi en faire. Si jamais il y a des gens qui ont des cochons ou des chevaux qui ont besoin de pain, ils peuvent se rapprocher aussi. Je serais heureux de leur en donner s'il faut, mais après, je vais essayer de voir aussi, avant qu'ils soient aussi vieux que ça pour donner à des cochons ou à des chevaux, je vais essayer de voir... avec des associations du coin que j'ai déjà contactées, que j'attends une réponse aussi pour savoir s'ils peuvent les redonner quand le pain a juste 24 ou 36 heures de temps, donc il est encore bon, mais pouvoir leur donner et donner à des personnes qui sont dans le besoin éventuellement, quoi. J'ai pas encore de réponse à tout ça.
C'est une question que tu t'es posée.
Ah bah oui, je me la suis posée et ça me tracasse un peu de pas avoir de réponse encore, quoi. Donc c'est vrai que là j'ai du pain sur les bras, mais je sais pas quoi en faire, quoi. Donc, voilà.
Rencontre avec Xavier, le tout nouveau boulanger de Guénin, le Fournil de Guénin.
Tu vas pas cuire du pain tous les jours?
Non. Actuellement, je suis sur deux fournées par semaine. Bah, ça suit les fournées de mes ventes à la Musette, donc la cuisson le mardi et le vendredi, sachant que je pétris la veille à chaque fois. Donc pétrissage les lundis et jeudis, cuisson les mardis et vendredis.
Mais alors, si moi je mangeais du pain tous les jours, il va tenir jusqu'au prochain achat ce pain, parce que généralement le pain il rassit.
Bah, c'est le but un peu des pains au levain, quoi. Les pains au levain, après c'est une question de conservation à la maison aussi, mais les pains au levain sont faits pour tenir quelques jours, voire une semaine, quoi. Si le pain est bien conservé, il va se tenir. Et en fait, le pain au levain a une petite acidité, et cette acidité aide à la conservation du pain et à ce qu'il ne pourrisse pas trop vite, en fait.
Le business plan, je pense que tu l'as pensé, imaginé. Tu comptes atteindre un seuil de rentabilité rapidement ?
Bah, j'espère qu'au bout de quelques mois, ce sera plus une question. Mais oui, non, ça devrait être assez rapide, je pense. Après, c'est en fonction des périodes, je pense. Faut voir avec les vacances, Noël, les fêtes, si jamais j'arrive à faire des pains qui attirent des nouveaux clients ou qui font acheter plus de produits aux clients également pour augmenter le panier moyen. C'est plein de choses où j'ai pas forcément la main dessus, enfin pas sur toutes les choses on va déjà, mais non, je pense que j'ai pas trop de peur par rapport à ça, non.
Le montage financier de l'opération, c'est un autre pétrin, ça a été compliqué, ça a été facile, tu as reçu des aides?
Oui, alors j'ai démarré ce montage financier avec mon père, parce qu'il aime tout ce qui est chiffres, donc c'était pas plus mal. Et après, je me suis fait aider de la BGE d'Arras, qui est une organisation qui aide les nouveaux entrepreneurs à s'installer et à monter les plans financement, les business plans et à se poser les bonnes questions sur la concurrence, la clientèle, le management aussi, et puis au niveau de la publicité, tout ça. Donc j'ai été aidé par la BGE et je les remercie pour ça, en tout cas.
Tu as quel âge ?
30 ans.
C'est le bon âge, justement, selon toi, pour se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, dans le pari sur l'avenir, avec suffisamment d'expérience passée et du temps devant soi ?
Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, enfin... Je pense qu'à tout âge, tant qu'on est prêt et qu'on est. Tant qu'on se sent prêt et qu'on pense que notre idée est bonne, je pense que si on a les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens, si on a les moyens, il faut pouvoir se lancer. Après, c'est vrai que c'est un peu. Ça peut être un stress en plus et puis plein de questionnements tous les jours, quoi. Mais. Bon, 30 ans pour moi c'était le bon âge, pour d'autres ce sera 40, d'autres 50, et puis c'est tout. Hein. Moi j'ai connu d'autres boulangers, ils ont ouvert leur boulangerie, ils avaient 50 ans. Mais voilà, ils avaient envie de le faire, ils l'ont fait. Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'âge vraiment pour se lancer en boulangerie en tout cas.
Alors si j'ai bien compris, toi tu n'es pas un boulanger qui va travailler de nuit.
Non, alors... Pas toute la nuit, on va dire.
Parce qu'il y a cette image, alors c'est peut-être une image d'Épinal, hein, du boulanger qui se lève tôt pour pouvoir, tôt le matin, fournir du pain tout frais.
Ouais, eh ben non, du coup. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais moi j'ai fait le choix, voilà, j'ai donné à me lever tôt le matin, j'ai plus trop envie, voilà. Et puis, je pense qu'un boulanger n'est pas forcément quelqu'un qui se lève tôt. Un boulanger est quelqu'un qui fait du pain ou d'autres produits et qui le met en vente à 7h, à 14h ou à 16h. Ça reste du pain et surtout du pain qui se tient. Donc au final, enfin pour moi en tout cas, donc qu'il soit cuit le matin ou l'après-midi, oui, ça ne devrait pas changer grand-chose, quoi. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Et je pense, j'ai eu des retours comme quoi ça paraît logique, donc ça me rassure un peu. Mais non, travailler de nuit, pour moi, je le ferai peut-être hein, pour des occasions où je sais que j'aurai des grosses journées à faire ou des événements, ouais, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un objectif que je me suis donné et j'espère pouvoir m'y tenir la plupart du temps, quoi.
Tu me racontes une journée où tu fabriques ton pain, il se passe quoi quand tu arrives ici, tu allumes la lumière et après?
Alors comme je l'ai déjà dit, mes ma production se fait en deux fois. Donc, on va dire qu'on va prendre la première production de la semaine, le lundi, c'est que du pétrissage. Donc, j'arrive, je commence à préparer mon pétrissage de la brioche, parce que pour la brioche, je fais une autolyse. Donc, l'autolyse, c'est un mélange des liquides, donc entre autres l'œuf et l'eau, avec la farine. Donc, on mélange ça, et puis après, on laisse reposer la pâte. Et entre-temps, je pétris toutes mes autres pâtes. Et à la fin, je termine par la brioche. Donc, ça, le fait de faire une autolyse, ça permet d'aider au pétrissage et de pétrir moins longtemps. Ce qui oxyde moins la pâte et ça permet de garder un peu plus de goût. Et ça aide un peu à la fermentation également. Donc voilà, donc en gros, ouais, je commence par la brioche, par l'autolyse de la brioche. Après, je pétris toutes mes pâtes et puis après, je termine par la brioche. Et après, en fait, j'attends que mes pâtes fermentent. Jusqu'à un certain niveau, ça prend 2h30, 3h quand même de fermentation. Et après, je les mets dans ma chambre froide, qui est juste derrière toi. Et ça s'est bloqué, enfin, quasiment bloqué au froid à 4-5 degrés toute la nuit jusqu'au lendemain matin, quoi.
Tu la surveilles, cette pâte, pendant qu'elle travaille ?
Non, je la laisse.
tu lui fais confiance ?
Je lui fais confiance, ouais. Non, mais ça. Travailler avec une chambre froide, ça permet d'avoir un outil qui nous aide pour contrôler la pâte, en fait. Après, il peut toujours y avoir un souci de fermentation. C'est pas un zéro risque. Hein. Mais la plupart du temps, ça va bien fonctionner, quoi. Après, c'est à moi de faire attention à la mettre en chambre froide au bon moment de sa fermentation pour que, quand j'arrive le matin, elle ait la bonne fermentation pour la façonner et la mettre au four après, quoi.
Rencontre avec Xavier, le tout nouveau boulanger de Guénin, le fournil de Guénin.
Au total, tu proposes combien de variétés de pain ?
Alors, attends, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 pains, 6 variétés de pain. Après, j'ai le pain aux olives et le pain aux noix, ce qui fait 9, et la brioche. Nature chocolat. Ouais, une dizaine.
Autant de recettes à chaque fois.
Ouais, c'est autant de recettes. Après, il y a des recettes qui sont quasiment similaires d'une farine à l'autre. C'est juste que la farine fait le travail pour varier le goût. Après, il y a toujours des petites variations au niveau de la quantité d'eau ou au niveau des rabats qu'il faut faire pour donner de la force à la pâte. Tout ça, c'est pas toujours les mêmes pour toutes les pâtes, quoi. Il y a des pâtes qui ont besoin de plus de rabat, d'autres qui n'en ont pas besoin du tout, d'autres juste un pour leur donner de la force, parce que c'est en fonction aussi de la quantité de gluten qu'il y a dans la farine. Plus il y a de gluten, plus on peut donner de la force à la pâte, donc faire des rabats, et plus elle aura du volume à la fin. Alors que, par exemple, le petit épeautre, il y a beaucoup moins de gluten. Donc, il ne faut pas mettre le rabat, sinon on abîme le réseau glutineux et après, il aura du mal à lever dans le four.
C'est un peu beaucoup de chimie et de biochimie, tout ça.
Oui, et encore, je ne rentre pas dedans. Et encore, je n'ai même pas envie de rentrer dedans. Mais il y en a qui en font leur métier et je trouve que c'est super cool. Hein. Mais ouais, c'est vrai, la boulangerie, après, c'est comme tout ce qui est à base de fermentation, hein, tout ce qui est vinification, brasserie, tout ça. C'est que de la chimie à la base, c'est de la chimie. C'est juste qu'on ne le voit pas et qu'on fait sans savoir. Mais voilà, ça en fait partie, quoi.
Il y a un plaisir particulier à nourrir.
Bah ouais, le plaisir, c'est de savoir qu'au final, ouais, qu'en tant que Français en plus, beaucoup de gens mangent du pain quasiment tous les jours, quoi. Donc ça fait plaisir de faire un produit qui est mangé quasiment tous les jours par quasiment tous les Français. Et donc ouais, c'est un plaisir, ouais. Parce que moi déjà, je suis le premier fan du pain. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai fait boulanger. Hein. C'est parce que j'adore le pain, j'adore manger du pain. Mais du coup, je me suis dit, bah, essaie de faire du pain toi-même. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, maintenant que tu sais faire du pain, essaie de faire du pain qui te ressemble un peu plus, donc avec des farines bio, levain, four à bois, quoi.
Il existe des pains plus destinés peut-être au petit déjeuner, d'autres au repas, des pains qui vont mieux accompagner le sucré, d'autres l'épicé, le salé.
Après, c'est toujours une question de goût. Mais c'est vrai que, par exemple, le petit épeautre, c'est un peu plus doux en bouche, donc faut pas trop. Je pense que faut pas manger avec des produits forts derrière, mais je pense qu'avec du foie gras, ça peut être pas mal, par exemple. Parce que c'est un petit goût, c'est une texture briochée à moitié. Et je pense qu'avec un bout de foie gras, c'est pas mal. Mais après, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Par exemple, je fais du métail, c'est moitié farine de blé, moitié farine de seigle. Je pense que ça a un goût un peu plus fort avec des fromages qui ont un peu plus de goût. Ça peut mieux passer, par exemple, je pense.
Tu aimerais devenir fournisseur d'une table réputée. Il y en a dans le Douaisis.
Sûrement, mais non, j'y ai pas réfléchi. Non, non, déjà, j'ai envie d'être fournisseur pour les particuliers. Et si ça peut me suffire pour subvenir à mes besoins, ça me suffira. Après, si jamais il y a une opportunité, par un quelconque hasard ou quoi, on verra, faut en discuter, quoi. Mais c'est pas un objectif que j'ai en tête, quoi.
Pourquoi le choix de cuire en moule?
Pareil, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de mon ancien chef boulanger, j'en ai discuté avec lui, il m'a dit que c'était une bonne idée parce que le pain cuit en moule conserve un peu plus ses saveurs, du coup, puisque les saveurs sont bloquées par le moule, quoi. Et donc, du coup, les pains en moule sont un peu. Ouais, ont peut-être un peu plus de goût, je pense. Et puis, je sais pas, moi, j'aime bien le visu du pain moulé quand même. Alors, ça a ses inconvénients, hein, mais c'est assez pratique aussi par rapport à la mise au four. Tu sais combien t'en mets, et puis voilà, c'est tout. Que la pâte soit trop souple ou trop dure, ça prendra toujours la même place. Mais les inconvénients, c'est que par exemple, faut les huiler à chaque fois avant de mettre la pâte, quoi. Donc bon, il y a des plus et des moins, comme tout.
Et puis il faut les démouler.
Hein. Ouais, mais ça c'est un plaisir. C'est comme si on déballe un cadeau à chaque fois. Tu t'enlèves le pain du moule, hop, il te tombe dans les mains, tu le poses sur la grille là pour qu'il reçu, tu le regardes, tu fais waouh.
Tu l'écoutes?
Ouais, le chant du pain, ouais. Je l'écoute plus, je t'avoue, mais ça fait partie de l'environnement. C'est comme des bruissements d'armes, tu vois. Tu les écoutes pas forcément, mais ils sont là et ça fait plaisir qu'ils soient là. Donc oui, je l'entends, mais je l'écoute pas forcément, en fait.
Tu le disais tout à l'heure, on est quand même dans un cadre spécifique, un projet porté, initié avec un lieu de vie social, avec un environnement particulier, dans un corps de ferme. Est-ce que tout ceci, ça a eu un impact finalement sur tes recettes? Est-ce que tu as l'impression que tes recettes se sont nourries de ce contexte?
En vrai, je ne sais pas, parce que après, c'est vrai que l'environnement, c'est un environnement qui est calme et doux ici, en fait, dans le coin. Et puis, j'ai eu la chance qu'Eric et sa famille avaient construit un laboratoire de qualité, quoi, et qui permet d'avoir de la place et pouvoir faire du pain au mieux, quoi. Et avec après les matières premières, comme je disais tout à l'heure, je suis pas allé jusqu'au bout, mais je vais essayer par exemple de trouver des œufs bio autour de Guénin, par exemple. Voilà, le fait de travailler avec des produits locaux, c'est un objectif quand même. Par exemple, mon sucre pour la brioche, c'est du sucre de betterave bio, tu vois. Donc du coup, ça fait plaisir parce que je pense qu'il vient il vient de France, c'est sûr, mais je pense qu'il vient du nord de la France, je pense, par exemple. Donc ça fait plaisir de faire des produits à base de produits français au plus, quoi, on va dire.
Nourrir, mais nourrir bien.
Et de mieux en mieux, faut essayer parce qu'il y a tellement de produits ultra transformés qu'on retrouve partout qu'il faut essayer de mettre les meilleures matières premières dans les produits, quoi. Pain, beurre, confiture, la base. Hein. Pour moi, c'est la base. Tous les jours, hein. Pain, beurre, confiture. Non, mais le pain, on en mange avec tout, le fromage, le pâté, les rillettes. Et puis, même sans rien, moi, je mange du pain sans rien. Hein. Même des fois, avec des pizzas, je mange du pain. J'ai toujours ma tartine de pain à côté parce qu'il me faut du pain pour manger, moi. Donc, non, non, ça se mange avec tout, le pain, de toute façon. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce produit, en tout cas.
Et pour vous aussi savourer le pain du Fournil de Guéna, rendez-vous à la Musette
l'espace de vie sociale et culturelle à Guénin, les vendredis après-midi et les mardis après-midi. Interview Hervé Dujardin, production Radio Scarpe Sensée.